Je voudrais d'abord vous dire combien nous sommes heureux de venir ici. Ça fait longtemps qu'on en parle, hein, tous les deux. On se dit, ah, bientôt on va venir à Wavrin. Et ça nous fait vraiment plaisir de venir parmi vous, parce qu'on sent la présence du Seigneur. Et puis, c'est le Seigneur qui parle. Et donc, voilà. Alors, vous savez bien que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis tant d'années de parler sur la fin des temps, sur son retour, le retour du Seigneur. Et donc actuellement, il y a une série d'études qui sont faites à la maison, et je vais donc reprendre la dernière. Une étude qui, finalement, les textes, vous les connaissez bien, puisque ça parle des 7 paraboles que l'on appelle les paraboles du royaume et qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Alors si je vais, puisque vous me donnez du temps et je vous en remercie, je vais reprendre l'étude au début parce que j'avais pensé que si j'avais pas tout à fait le temps, j'aurais coupé le début. Donc je vais la reprendre au début comme ça. Hein? La parole de Dieu est d'une très grande richesse. On peut interpréter, frères et sœurs, les textes qui sont donnés dans la parole de Dieu de différentes façons. Et quand on étudie les paraboles du royaume, c'est des paraboles qui commencent, vous savez, par le verset « Le royaume des cieux est semblable à ». Ça commence comme ça. Et ce sont en général des histoires qu'on raconte aux enfants à l'école du dimanche parce que c'est tellement beau que... Et puis on en donne une interprétation souvent idéale, souvent une interprétation qui est un peu angélique. À travers ces paraboles, on pourrait dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et pourtant, frères et sœurs, il est écrit ce verset, Matthieu 13, verset 52. Alors, je vais vous les lire au fur et à mesure. Hein, et vous allez, si vous les suivez, vous allez sans arrêt aller dans votre Bible. Mais j'ai préparé un document que je laisserai ici, que vous pourrez photocopier. Donc, tout sera dedans, et même plus que ce que je dirai. Et il nous est dit, c'est pourquoi tout scribe instruit en ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs choses à tirer de cet enseignement. Et à un moment donné, voilà que Jésus, dans son ministère, à partir du chapitre 13, il se met à parler en paraboles. Alors qu'avant, il parlait clairement. Et si vous prenez, par exemple, le début du livre de Matthieu, eh bien, il prêche sur la montagne, et là, il parle clairement. Alors, pourquoi parler en parabole? D'abord, je voudrais rappeler une chose, c'est que si vous vous mettez dans la peau d'un prophète de l'Ancien Testament, il était impossible pour eux de voir le temps que nous vivons, que l'on appelle le temps de la grâce. Et je voudrais simplement commencer, ça je ne l'avais pas fait la fois dernière, mais par un petit texte du livre d'Ésaïe, que Jésus a lu dans la synagogue un jour. Et il a lu, c'est au chapitre 61, la chose suivante, tout au début du chapitre. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter aux hommes une bonne nouvelle. » Aux malheureux une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et regardez bien, Jésus s'est arrêté là. Or, il y a dans la phrase une virgule. Virgule et un jour de vengeance de notre Dieu. Et il n'a pas dit ça, Jésus. Pourquoi ? Eh bien, parce que la virgule, elle dure 2000 ans. Et on ne pouvait pas voir que dans la virgule, il y avait le temps de la grâce. Et ce temps de la grâce, c'est un des mystères. Et vous voyez, quand Jésus vient et qu'il commence à parler en parabole, les disciples s'approchèrent au chapitre 13, verset 10 de Matthieu. Il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi? Et l'explication est donnée dans le chapitre 12 de Matthieu. Parce que Jésus va parler des mystères du royaume. Alors, un mystère, qu'est-ce que c'est ? Ben, un mystère, c'est quelque chose que Dieu a tenu caché, qu'il tient caché et qui ne peut être compris sans la révélation de Dieu. Il faut une révélation pour comprendre un mystère. Et dans le Nouveau Testament, il y a 11 mystères. Par exemple, le mystère du mariage. Mais il n'y a pas que cela. L'union d'un homme et d'une femme, c'est un mystère. Parce que ça engendre tellement de choses spirituelles. Il n'y a pas que le charnel, vous savez. Que c'est un mystère qu'il faut comprendre par la révélation de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas content quand il y a des histoires de couples qui se... Des perversions, des choses comme ça, vous voyez. Dieu n'est pas content de ça. Alors, pourquoi Jésus a-t-il parlé en parabole ? Ben, si vous voyez, alors je vais aller assez vite sur ce chapitre-là, parce que c'est pas le chapitre de l'étude de ce matin, mais premièrement, au chapitre 12, Jésus a guéri quelqu'un qui avait la main sèche le jour du sabbat, comme par hasard le jour du sabbat. Jésus était quand même assez provocateur. Et à cause de ça, on voit que les pharisiens ont voulu attraper Jésus pour le tuer. Au chapitre 12. Donc Jésus, il s'est filé, il a filé. Et puis, il va répondre avec force à leur méchanceté. Dans Matthieu 12, on peut lire « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Voilà ce qu'il dit aux Juifs. « Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». C'est pourquoi je vous dis, et pourquoi il dit ça ? Il dit ça, écoutez, c'est quelque chose qu'on applique souvent aux chrétiens, ça. Mais là, il parlait à des juifs. Il dit, c'est pourquoi je lui dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Pourquoi il dit ça à des juifs ? Eh bien, parce que les juifs qui avaient vu ce Jésus guérir l'homme qui avait la main sèche, ont dit, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est Satan. Et ils n'ont pas reconnu le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus leur dit, tout blasphème sera pardonné, mais pas celui contre le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reconnu le Saint-Esprit. Et puis, après, les Juifs leur demandent un miracle. Ils demandent un miracle à Jésus. Et Jésus répond, une génération méchante et adultère demande un miracle, il lui a donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. C'est à ce moment-là qu'il lui dit. Et Jésus va condamner les Juifs religieux de son époque. Et il dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Etc. Et il condamne. Et puis, il y a un autre texte que nous prenons aussi souvent pour nous, en disant, ça s'applique aux chrétiens, mais je vais vous dire une chose, Jésus parlait aux Juifs. Il parle d'une maison qui a été nettoyée. Et puis cette maison reste vide. Et il dit, dans cette maison, sept démons plus méchants reviendront. Et il parle de la maison d'Israël. Relisez les textes. Pourquoi il parle de la maison d'Israël ? Et je vais reprendre, moi, un texte de Matthieu. Au chapitre 23, ça je ne l'ai pas noté dans mon papier, alors je vais aller le rechercher. C'est un texte quand même qui passe inaperçu quelquefois, comme ça. Chapitre 23, verset 37, il dit, c'est Jésus qui parle sur Jérusalem, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ?» Et il ajoute « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Ils n'ont pas accepté le roi. Ils n'ont pas reçu leur roi. Pourtant Jésus était venu nettoyer la maison d'Israël. Il a voulu la nettoyer, il n'a pas été reçu, la maison reste déserte et sept démons plus méchants viennent l'habiter. Et alors Jésus a changé d'attitude. Jésus va changer d'attitude à partir de ce moment-là et il accomplit en fait là une prophétie qui est écrite dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, versets 9 à 13 que je vais vous lire. Dieu dit alors, « Va ». Et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Vous verrez, vous ne saisirez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse point et ne soit pas guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'enfants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que les maisons soient ravagées par la solitude, jusqu'à ce qu'un immense désert, que l'Éternel ait éloigné, les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une saine postérité renaîtra de ce peuple. Donc vous imaginez un peu, là, on a quelque chose qui se prépare, c'est que Jésus va fermer les oreilles du peuple d'Israël parce qu'il ne veut rien comprendre, ne veut rien entendre, il ne veut pas recevoir son roi. Il ferme les oreilles de ce peuple et à partir de ce moment-là, il commence à parler en paraboles. Et pour comprendre ces paraboles, eh bien, il faut recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'on peut la comprendre sous une forme enfantine. Vous voyez ? Comme on lit un livre, comme n'importe qui pourrait lire la Bible et comprend quelque chose. Mais est-ce que ce quelque chose, c'est la volonté de Dieu ? Vous voyez ? Alors voilà. On arrive à un passage fort intéressant. Et si vous prenez les toutes premières paroles de Jésus au chapitre 13... Regardez, c'est très symbolique. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Ça veut dire quoi, en clair ? Il sort de la maison d'Israël et il s'assit au bord de la mer, et la mer, ça représente les peuples. C'est tout simplement ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va commencer par semer. Il va semer dans les peuples. Et la première parabole qui est donnée, il y en a sept, on va les regarder toutes les sept, si vous voulez bien. Ça va prendre du temps, mais si vous en avez marre, vous me le dites surtout. Vous levez le doigt. Hein ? Un semeur sorti pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt et parce qu'elle ne trouva pas de sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'aime bien cette parole-là, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je veux dire, s'il faut des oreilles avec le Saint-Esprit dedans. Parce que tout le monde a des oreilles. Alors, ça c'est vraiment une parabole que tout le monde connaît. Jésus a semé avec ses disciples et tous ceux qui l'ont suivi, et la semence va tomber dans quatre zones. Hein, tout le monde connaît ça. Mais ça ne fait rien, juste un petit commentaire et puis on va avancer. Il y a le chemin. Le chemin, c'est vraiment le lieu commun. Tout le monde passe dans un chemin. Donc qu'est-ce que ça représente ? Ça représente des personnes qui reçoivent les idées du monde. Vous savez, les idées qu'on nous martèle, c'est un lieu commun. C'est l'endroit des lieux communs. Et qu'est-ce qu'on nous martèle jour et nuit ? Ben, des tas de les rudiments du monde, voyez ? Les rudiments du monde. Par exemple, la théorie de l'évolution, ce sont les rudiments du monde qu'on a imaginés. Personne ou très peu de gens mettent en cause cette affaire-là. Mais ça, c'est le chemin, frères et sœurs. Et le chemin, ceux qui restent sur le chemin, ils acceptent ces théories-là. Et ça conduit à quoi ? Ça conduit au fait que le Créateur n'existe pas. La théorie de l'évolution conduit à croire qu'il n'y a pas de Créateur. voyez. Après, vous avez les endroits pierreux. Ça représente les personnes superficielles. Je vais pas insister là-dessus, hein, qui ne cherchent pas vraiment la communion intime avec le Seigneur. Je voudrais simplement dire que on en parlera aussi des vierges folles et des vierges sages que vous connaissez. Elles ont toutes le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous demande le Seigneur ? C'est de faire les œuvres préparées d'avance, c'est-à-dire d'écouter au jour le jour ce que le Seigneur nous demande de faire. Et le Seigneur ne nous demande pas de faire comme le copain. Personnellement, ce que je fais avec le Seigneur est complètement atypique. Je ne suis pas reçu partout. C'est complètement atypique, mais c'est le Seigneur qui me l'a demandé. Alors, c'est tout. Et que les gens me jugent ou pas, ça, j'en ai rien à faire. Et c'est ça qui compte, c'est de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Il y a les épines qui représentent les personnes qui sont plus intéressées par les richesses ou qui sont ensevelies dans les problèmes. Ce que je veux dire, c'est que finalement, il n'y a qu'un quart de la semence qui lève. Et que c'est celle qui tombe dans la bonne terre. Mais vous voyez, Jésus, qu'est-ce qu'il nous explique à travers ces paraboles ? Ça commence par la parabole du semeur et ça va finir par la parabole des pêcheurs, le grand filet. Et tout cet épisode-là, ça représente le temps de la grâce. Et s'il nous donne ces paraboles, c'est pour nous expliquer surtout ce qui se produit à la fin du temps de la grâce. Comment les choses vont se présenter à la fin du temps de la grâce, dans ce qu'on appelle communément l'Église avec un grand E, tout ce qui s'appelle chrétien sur la terre. Alors, regardez, c'est symbolique, mais dans le temps, dans l'évolution du temps, le grain donne 100, puis 60, puis 30. Et on voit que ça diminue. Et ce que je voudrais vous expliquer à travers ces choses-là, c'est que les choses vont devenir de plus en plus difficiles pour ceux qui sont fidèles au Seigneur et que le grain donnera de moins en moins, jusqu'à son retour. Et d'ailleurs, Jésus a dit dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» C'est une question qui est posée. Trouvera-t-il encore la foi ? Donc vous voyez, quand on nous parle de réveil, etc., 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 je dis, je le souhaite, hein. Gloire à Dieu s'il y a des réveils ici ou là. Mais le réveil généralisé, oui, il va venir, c'est écrit, les 10 vierges se réveilleront. Donc il va y avoir un réveil. Mais regardez le tri qui se fait après. Hein ? Alors, on arrive à la parabole, ici, 3 paraboles qui vont se suivre. Vous allez avoir la parabole de l'ivraie, la parabole du grain de sénevé et la parabole du levain. Les 3 paraboles qui se suivent, où Jésus va nous décrire, il n'était pas naïf, vous savez, Jésus, il va nous décrire la situation du monde chrétien. Et j'ai pu lire sur Internet, des trucs épouvantables. Je sais que certains vont peut-être tourner sur leur chaise dans ce que je vais tout dire ce matin. C'est possible parce que c'est... Bon, ça fait rien. Mais je vois sur Internet, merci Seigneur, parce que dans l'Église, le levain est en train de monter et donc l'Église est en train de se fortifier, etc. Mais attendez, mon ami, c'est une catastrophe ce que tu es en train de dire là. Alors, allons-y. La parabole de l'ivraie. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi, et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il. » De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe et pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, nous connaissons bien ça. Nous connaissons bien ça. Et seulement, vous voyez, il parle de la moisson. Donc c'est quelque chose qui se prépare pour la fin, la moisson. Parce que la moisson, c'est pas maintenant. La moisson, c'est pas maintenant. La moisson, c'est bientôt. Et comme le royaume de Dieu, c'est bientôt. Il s'installe quand il vient, le royaume de Dieu. Quand Jésus vient, hein, on est en préparation du royaume. Et ce qu'il dit là, c'est la préparation du royaume. C'est pas le royaume. Nous pouvons comprendre dans la parabole qu'il y a deux groupes de personnes qui nous intéressent. En fait, il y en a trois, mais il y a les gens, ce qu'on appelle les gens maintenant, hein, qui dorment. Il y a le blé. Et les gens, c'est pas le blé. On est d'accord ? Les gens, c'est pas le blé. Et puis il y a l'ivraie. Donc il faut faire une distinction. Parce qu'on dirait le blé, c'est les chrétiens, et les gens, c'est qui alors à ce moment-là ? Les gens, c'est pas le blé. Donc il faut réfléchir à ça. Et je voudrais vous rappeler qu'à l'approche de la moisson, juste avant l'enlèvement de l'épouse, il nous est dit que la totalité des chrétiens dorment. Même si vous avez l'esprit. Parce qu'il nous est dit qu'ils ont tous l'esprit. Mais ils dorment. Et comme Jésus tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, c'est une sombre période sur laquelle Jésus disait, écoutez ce qu'il disait, Jean 9, 4, vous connaissez ces textes, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres qu'il m'a envoyées, pour les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient. Où personne ne peut travailler. Et c'est au cours de cette nuit-là qu'aura lieu l'enlèvement de l'épouse. Parce qu'il est écrit dans Luc 17, au verset 34, « Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. » De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Excusez-moi, mais la nuit, il n'y a personne qui travaille dans les champs. Il s'agit donc bien d'une nuit spirituelle. Une nuit spirituelle dans laquelle personne ne peut travailler. Et c'est une nuit spirituelle qui se passe à la fin des temps, juste avant le retour du Seigneur. Toutes s'endormirent. Et pendant cette période où les gens dormaient, nous, c'est à ce moment-là que le blé doit pousser et que parmi le blé, il y a une semence qui est plantée. Alors, que représente le blé ? Je vais faire un petit résumé. Dieu appelle la nuit ténèbres dans Genèse. Jésus nous a enseigné qu'une nuit vient, que durant cette nuit, personne ne peut travailler. Au cours de cette nuit spirituelle, toutes les vierges sont endormies à cause de l'attente trop longue. Elles seront brutalement réveillées par un cri. Cette nuit sera unique, sans doute longue, parce qu'il y a des textes qui nous disent, par exemple, ici dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 17, « Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il viendra par surprise, quand on ne l'attendra plus. Certains seront prêts, d'autres non. C'est pourquoi Jésus et les apôtres nous ont avertis de veiller et de nous dépouiller des œuvres du ténèbre. Rappelons-nous aussi que Jésus est allé vers les siens qui sombraient et qu'il a pris la main de Pierre qui sombrait dans l'eau parce qu'il a appelé Pierre, il a dit « Viens vers moi ». Pierre est sorti de la barque, il a marché sur l'eau et il sombrait. Et c'est à ce moment-là que Jésus l'a tiré de l'eau. Regardez l'eau, la mer, les peuples. C'est l'image de l'Église qui est sortie de l'eau. Au moment où l'Église sombre, elle n'en peut plus. elle n'en peut plus. Elle est arrivée au bout. Et là, Jésus va la sortir. Et je disais une fois en prêchant que si moi, je savais qu'un danger imminent, quelque chose de très grave arriverait sur ma femme, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour la sortir avant. Et ça, c'est l'enlèvement. Parce que je l'aime, tout simplement. Et que je n'ai pas envie qu'elle soit massacrée. Alors, qu'est-ce que représente le blé, frères et sœurs? Eh bien, Dieu se prépare un peuple en Israël. Dieu se prépare un peuple en Israël. Parce que Jésus, qui est sorti sur le bord de la mer, à un autre moment dans le chapitre 13, il rentre à la maison. Regardez ces textes, ça n'a l'air de rien. Mais il rentre à la maison. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'il commence à expliquer ses paraboles à ses disciples. Il rentre à la maison. Et je voudrais vous dire une chose, dans Marc 4, versets 26 à 29, il est dit « Il est encore du royaume comme d'un homme qui jette de la semence par terre, qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. » Et quand on parle dans la Bible de la terre, frères et sœurs, ça représente la terre d'Israël. La terre d'Israël va produire d'elle-même le blé. Je ne m'inquiète pas, frères et sœurs, pour le peuple juif. Parce qu'à un moment donné, le voile va être déchiré et c'est Dieu qui va le déchirer. Ce n'est pas nous, chrétiens, qui allons déchirer le voile qui est devant les yeux des Juifs. Et je vais vous lire un passage ici que j'ai tiré du Keren Israël, ce petit journal qui est fait par Jean-Marc Taubois. Je vais vous lire un extrait ici. Un rabbin, Itzhak Kaduri, est mort il y a plus d'un an, à l'âge de 108 ans. Il a laissé une note scellée révélant le nom du Messie. Cette note a été ouverte récemment. Il avait écrit une phrase en hébreu dont chaque première lettre de chaque mot épelait le nom de Yeshua. Quelques mois avant que Kaduri ne meure, à l'âge de 108 ans, il a surpris ses disciples en leur disant qu'il a rencontré le Messie. Kaduri a donné un message dans sa synagogue le jour du Yom Kippour, enseignant comment reconnaître le Messie. David Kaduri, le fils, a confirmé que pendant sa dernière année, son père avait parlé et rêvé presque exclusivement du Messie et de sa venue. « Mon père a rencontré le Messie en vision », a-t-il dit, « et il nous a dit qu'il revient bientôt ». Dans la revue Breaking Christian News, David Drelling, président de Israel Relief Fund, racontait un fait similaire. Selon Drelling, le père de sa belle-mère, qui avait été le premier rabbin orthodoxe à Brooklyn, est tombé dans un coma à 101 ans. Après s'être remis, il a vécu encore jusqu'à l'âge de 106 ans, mais avant de mourir, il appela un de ses petits-enfants et révéla que pendant qu'il était dans le coma, Dieu lui avait dit que le Messie était Yeshua de Nazareth. Dieu fait tout seul. Il n'a pas besoin de nous dans la terre d'Israël. Il fait tout seul. Et le blé, frères et sœurs, à mon sens, c'est ça. Nous sommes les gens dans la parabole. Alors, c'est intéressant à comprendre. Et c'est mélangé avec de l'ivraie. Et vous allez voir en Israël, l'ivraie qui est... Mais il n'y a pas que là-bas qu'il y a de l'ivraie, il y en a aussi chez nous, hein, vous inquiétez pas. Alors, le mot « ivraie » n'est pas traduit directement du grec, mais il provient d'un mot latin populaire qui se dit « hébraïka », mais « hébraïka » sans « h » au début. Hein. Et le mot « hébraïka » fait référence à des vertus enivrantes qu'on attribuait à la plante, à cette plante-là. C'est la plante qui rend ivre. Et sous la forme grecque, le mot qui est utilisé, c'est zizanion, qui a laissé sa trace sous la forme zizanie. Et l'ivraie dont parle Jésus, donc, c'est une plante qui rend ivre et qui rend et qui entraîne les désaccords sournois. Voyez, et ça c'est semé. Ça c'est semé. Alors évidemment, on va arriver à un moment où le Seigneur va lancer sa faucille. Ça c'est écrit dans l'Apocalypse. Hein. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Et j'aurai peut-être une autre fois l'occasion de vous expliquer, frères et sœurs, que il y a deux résurrections dans la Bible. Il y a la résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts. Et la résurrection d'entre les morts, c'est la première résurrection. Elle se fait en 7 temps. Et le premier qui est sorti d'entre les morts, c'est Jésus. Et il y aura, au moment de l'enlèvement, la résurrection des chrétiens qui sont morts dans le Seigneur. Mais ce n'est pas la dernière partie. Si vous voulez, la dernière partie de cette première résurrection, ça a lieu à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 20 ou 21, quelque chose comme ça. Et ce sont les martyrs qui ressuscitèrent, et ça clôt la première résurrection. Mais il y a donc une moisson, la grande moisson, et il y a la moisson de la terre. C'est deux choses différentes, frères et sœurs. Et on le voit dans l'Apocalypse. Et la moisson de la terre est aussi la vigne qui va donner son vin. Eh bien, on parle d'Israël à ce moment-là. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la grande tribulation, où les Juifs vont passer 7 ans terribles. C'est le temps de la tribulation qui se termine par le jugement des nations à Armageddon. Voilà donc la parabole ici, la parabole de l'ivraie. Parlons maintenant la parabole du grain de senevé. Le royaume des cieux est semblable à un grain de senevé qu'un homme a pris à semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors voyez, là c'est vraiment la parabole. Quand on la raconte aux enfants, on imagine cet arbre avec des oiseaux, et puis tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais attendez, nous savons que l'Écriture... Dans l'Écriture, le Seigneur nous a donné des informations. Et particulièrement, vous savez bien que se prépare celle qu'on appelle la prostituée. Et qu'on appelle aussi Babylone. Babylone la Grande. Dans l'Apocalypse, au chapitre 18, qu'est-ce qu'il est dit? Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur. Oh ! Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là ? On commence à voir, là, qu'il y a des oiseaux impurs. Alors, quels sont les oiseaux qui sont dans ce grand arbre ? Il y a un autre texte qui est très intéressant. Ça se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 4, et c'est assez long, je ne vais pas tout lire parce que c'est assez long, mais vous pourrez aller le revoir, ça va du verset 8 au verset 27. Et vous avez le roi Belshazzar qui fait un songe. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Et l'on voyait les extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Et on retrouve la même image, hein, d'un arbre avec des oiseaux dedans. Et puis qu'est-ce qu'on voit juste après ? Un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre !» Boum ! Un si bel arbre, on était si contents. Il nourrissait tout le monde était abrité dedans. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Coupez ses branches, secouer le feuillage, disperser les fruits, que les bêtes fuient de dessous, les oiseaux du milieu de ses branches, mais laisser en terre le tronc où se trouvent les racines, liez-les avec des chaînes de fer et d'airain. Vous avez déjà vu, vous, un arbre qu'on lie comme ça ? Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée, qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour pâturage, écoutez, son cœur d'homme lui sera ôté, un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Et voilà, ça c'est une image de la prostituée de la Babylone. 7 ans, ça vous rappelle rien ça ? 7 ans. J'ai pas eu l'occasion, mais si un jour on pourra peut-être parler des temps de Dieu, et où on voit que le temps de la grande tribulation, c'est 7 années. 7 fois 360 jours. Ça va durer 7 ans. C'est long, 7 ans, vous savez. Prenez la guerre 40, ça n'a pas duré 7 ans. Hein. Pourtant, il y en a eu des dégâts. Hein. Là, ça va durer 7 ans. Et qu'est-ce qui nous est décrit ici ? Un royaume qui devient, et il faut le dire au sens propre des choses, cette année de tribulation, le dernier royaume sera bestial. La terre entière sera pendant 7 ans sous la domination de cet arbre. L'Empire romain, encore appelé Babylone, et dont les caractéristiques seront bestiales, autrement dit inhumaines. Moi, quand je prends l'exemple, je dis, regardez Hitler, ben, mettez ça sur toute la terre. Voilà. Imaginez ce que vous pourrez faire pendant ce temps-là. Hein ? Alors, qu'est-ce qui nous est dit ? Toujours dans ce texte de Daniel, il nous est dit, 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine et règne sur les hommes, qu'il leur donne ce qu'il le donne à qui il lui plaît. Autrement dit, il va falloir 7 ans pour que les hommes finissent par comprendre que le roi c'est Jésus et qu'il va régner sur la terre et qu'il va installer son royaume sur la terre, ce temps que l'on appelle le millénium, hein, qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et puis, prenons maintenant cette histoire du grain de sénevé. Dans Matthieu 13, il nous dit donc ce texte, le royaume est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Et quand il a poussé, il est plus grand que tous les légumes. Le mot qui est utilisé comme grain de sénevé, qui a été traduit par sénevé, c'est un mot grec qui dit synapi. Il est traduit par sénevé aussi par grain de moutarde, mais ce n'est pas la moutarde de Dijon. Hein, c'est la moutarde qui nous servait, moi quand j'étais petit, quand j'avais une grippe ou une maladie, ma mère elle me faisait un cataplasme. Ben, c'est cette moutarde-là. D'accord ? Et le mot, on disait aussi un synapisme. D'accord ? C'est des mots. Bon, et bien voilà, c'est ça, le grain de sénevé. C'est tout petit, petit. Mais lorsque Jésus était sur la terre, frères et sœurs, c'est lui qui a planté le grain de sénevé. Et ce grain de sénevé est très symbolique. Pourquoi ? Parce que dans Matthieu 17, il dit, je vous le dis, si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, vous rappelez de cette parole. Donc c'est vraiment une image de la foi, ce grain de sénevé. Et puis il dit à un autre texte dans l'évangile de Luc, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le petit troupeau, frères et sœurs, ce n'est pas un grand arbre. Du grain est sortie la première église, sur le fondement des apôtres. Et il est dit, Jésus a ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés. Vous connaissez ces textes. Et à la fin des temps, Jésus, qu'est-ce qu'il honore ? Il honore l'église de Philadelphie. Et de l'église de Philadelphie, il dit quoi ? Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais il y a une autre église aussi. Et voyez donc, le grain, ça représente vraiment la force de l'église. Et on sait très bien qu'un grain de sénevé, quand il va pousser, il ne va pas donner un arbre, mais il va donner un arbuste. Mais s'il donne un arbre, c'est étrange. Et il n'a pas vocation à devenir un arbre. Parce que quand il devient un arbre, ça veut dire qu'il gagne en magnificence, en beauté, tout ce que vous voulez, mais il a perdu la force du grain. Et le christianisme n'est pas un arbre. Si je regarde maintenant, le christianisme n'est pas un arbre qui couvre le monde entier et sous lequel tout le monde s'abrite. Par contre, si vous regardez bien, et moi j'ai l'occasion d'aller à droite, à gauche, on en a déjà pris des claques, je peux vous le dire. Hein ? Qui sont ces oiseaux ? Qui sont les oiseaux qui se sont installés dans les branches ? Regardez l'église, comment elle a poussé, comment elle s'est divisée en branches. Ah ouais, ça fait un arbre. C'est beau, hein ? Ça s'est divisé en branches. Mais le même jour, quelques minutes avant, Jésus, il avait donné la parabole du semeur. Et dans la parabole du semeur, qu'est-ce qu'il a dit ? Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, tiens, et la mangèrent. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est le Seigneur qui donne l'explication. Et il nous dit bien là que les oiseaux sont des acteurs du malin. Ça représente le malin. Et Dieu dit que l'arbre, à la fin des temps, il est grand, il est beau. Mais il est rempli aussi d'oiseaux de toutes sortes. Alors il y a des bons oiseaux. Mais vous savez, moi j'ai remarqué que quand il y a un corbeau qui se ramène sur une branche, les colombes s'en vont et d'autres corbeaux arrivent. Et vous avez des branches où il n'y a que des corbeaux. Vous n'avez pas remarqué ça ? Allez donc vous promener dans telle ou telle église. Nous, on a vu, frères et sœurs, des corbeaux dans les églises. Des gens qui se disent serviteurs de Dieu et qui sont serviteurs d'eux-mêmes. Le grand arbre de la parabole, c'est donc une image du christianisme de la fin. Vaste et structuré sur ses branches, viennent en toute quiétude s'installer les esprits mauvais. Et c'est bien l'image qui est donnée actuellement. Et ne prenez pas mal ce que je vais dire. Mais au nom de l'œcuménisme et de l'amitié entre les hommes, toutes les religions sont belles et bonnes. Est-ce que ce n'est pas rassurant, humainement parlant, de voir prier ensemble, chrétiens, musulmans, bouddhistes, etc., etc. Et l'on accepte dans les branches toutes sortes d'idéologies. Mais moi, je voudrais ajouter autre chose, frères et sœurs. C'est que Dieu a un plan. Dieu fait un tri. Il fait un tri. Son tri, il est bien commencé parmi les chrétiens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12, nous dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » C'est pas fort, ça ? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Eh oui, c'est Dieu qui envoie ça. C'est Dieu qui permet ça. Et je voudrais vous faire remarquer que, à la fin des temps, il y avait l'église de Philadelphie, que Dieu honore, mais il y a aussi l'église de Laodicée. Allez donc revoir l'église de Laodicée. À chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, je dis, c'est la seule église, frères et sœurs, de laquelle il est dit que Jésus n'est pas dedans. Il dit, je me tiens à la porte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, non ? Il est dehors, on l'a mis dehors. Et il y a certaines églises, frères et sœurs, qui sont tellement bien organisées, tellement bien structurées, qu'il y a quelqu'un qui a dit, si Dieu s'en allait, on ne s'en apercevrait même pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. Parce qu'on n'entend pas ce que le Seigneur nous demande au jour le jour. Et qu'on fait à sa façon ce que Dieu ne nous a pas demandé. C'est ça l'histoire de l'huile. Celui qui n'a pas l'huile, c'est celui qui n'a pas l'habitude d'entendre ce que Dieu demande. Parce que je vais vous dire une chose, quand il va faire noir, vraiment noir, on ne pourra plus voir, on sera obligé d'écouter. Et celui qui n'a pas d'habitude d'entendre la voix du Saint-Esprit, il est cuit. Il est cuit. Alors voilà, ça c'est la parabole donc du grain de senevé. On arrive maintenant à la parabole du levain. Ça va, c'est pas trop... Elle est très courte, hein. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Alors, on constate que les enseignements de Jésus sont là pour nous informer dans quelles circonstances le royaume va paraître. Et presque chaque parabole de Jésus annonce que ce qu'il a planté, finalement, est en train de se polluer. C'est terrible, hein ? Alors ici, dans la parabole, la farine, c'est une image de la pureté de Christ, parce que Christ, c'est le grain qui a été broyé et qui donne la farine, et Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Donc c'est bien la farine. Je voudrais vous rappeler une chose, c'est que les offrandes qui sont décrites dans le livre du Lévitique, au chapitre 6, versets 7 à 10, étaient faites de fleurs de farine, qui représentent la pureté. Cette farine était pétrie dans l'huile, qui représente le Saint-Esprit. Sur l'offrande, on versait l'huile. Ça veut dire qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et on mettait ensuite l'encens sur l'offrande, qui représente la bonne odeur qui dégageait la vie. Et enfin, le gâteau devait être sans levain. Et pourquoi est-ce que Jésus parle de 3 mesures ? Eh bien parce que c'est quelque chose qui est complet. Le chiffre 3, c'est quelque chose qui est complet. Par exemple, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça fait 3. On dit Saint, Saint, Saint et le Seigneur. On dit qui était, qui est et qui vient. Ça fait toujours 3 comme ça. Et lorsque, par exemple, si vous reprenez dans l'Ancien Testament, Abraham, il a reçu un jour la visite de Dieu. Des anges sont venus, ils étaient 3. Et qu'est-ce qu'il dit, Abraham ? Il dit à sa femme tout de suite, il alla promptement dans sa tente vers Sarah, il dit vite 3 mesures de fleurs de farine. Pétri fait des gâteaux. 3. Et le levain qui est dans ce gâteau, eh bien, c'est toujours, toujours, toujours l'image du péché. Il nous est dit dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, verset 18, « Tu n'offriras pas de pain levé, tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur. » Donc, pas de pain levé. Et Paul demandait aux Corinthiens de faire disparaître le vieux levain. Le levain de malice, comme il disait, le levain de méchanceté, car un peu de levain fait lever toute la pâte, il disait. Et dans cette parabole, frères et sœurs, c'est une femme qui a mis le levain. Et en ce qui concerne les prophéties bibliques, très souvent, l'image de la femme représente un principe mauvais de séduction. On se souvient, par exemple, de Jézabel, on se souvient aussi de la grande prostituée. Et donc, les Écritures nous parlent de plusieurs sortes de levain. Matthieu, chapitre 16, verset 6, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du sien, du levain des pharisiens et des sadducéens. Et puis, Matthieu 8, au verset 15, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Donc, on a ici trois levains différents. Et je voudrais rapidement vous dire ce que ça représente. Les pharisiens, c'était des gens qui... C'est grâce à eux, frères et sœurs, que la religion judaïque a été maintenue. S'ils n'avaient pas été là, je pense qu'elle aurait disparu. Donc il ne faut pas leur jeter complètement la pierre. C'était des gens qui attendaient la venue du Messie. Parmi eux, certains se sont retirés et sont devenus les Esséniens et qui attendaient le retour du Messie. Parmi eux, il y avait aussi les scribes, puisque Jésus dit toujours scribes et pharisiens. Mais voilà, c'était des gens qui tenaient pour très importants tous les rites. Donc, ils respectaient les rites humains avec un cœur éloigné de Dieu. Jésus parle de leur hypocrisie. Et les pharisiens ont ajouté à toute la loi du Pentateuque, ils ont ajouté toutes les traditions juives. Donc c'était des gens traditionnalistes et qui vivaient, c'était des légalistes. Ils n'avaient pas finalement l'amour de Dieu. Ça c'est un levain. Vous savez, il y a dans le monde chrétien, combien il y a de gens qui vivent des rites simplement. Ben, je vais à la messe, je fais ci, je fais ça. Donc, parmi les pharisiens, vous voyez, il y avait tout ça. Ça, c'est le levain des pharisiens. Les sadducéens, ce n'était pas pareil. Les sadducéens, c'est des gens qui n'avaient pas vraiment la foi. Ils ne croyaient pas en la résurrection, ils ne croyaient pas dans les anges, ils ne croyaient pas dans un certain nombre de choses. Finalement, la foi, c'était plutôt des cartésiens, vous voyez. Et c'est des gens qui, finalement, disaient, la religion, oui, c'est assez universaliste. Et pourquoi pas faire un mélange entre les religions grecques et juives, pourquoi pas tout ça. Et finalement, ils auraient volontiers conservé l'existence d'Israël en échange de sa religion. Vous voyez ? Globalement, ce sont des tièdes. Les tièdes. L'humanisme, le syncrétisme, toutes ces choses-là. Le levain d'Hérode, c'est autre chose. Le levain d'Hérode, c'est la mondanité. Et je voudrais, frères et sœurs, vous montrer un cas de mondanité qui n'est pas cité rarement. C'est le cas d'Ésaü. Ésaü, un jour, il a eu faim. Et puis, vous connaissez l'histoire. Hein ? Et son frère était en train de faire la cuisine. Bizarre, mais c'est comme ça. Alors il a dit, donne-moi 2 roues. Et là, tu lui as dit, attends là, camarade, tu vas d'abord me vendre ton droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous est dit, dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 16, il nous est dit qu'Ésaü est appelé profanateur. Profanateur. Qu'est-ce que c'est qu'un profanateur ? C'est quelqu'un qui fait fi de son appel. Pourquoi ? Parce que Ésaü, c'était l'aîné. Et à cette époque-là, la sacrificature n'existait pas. Les sacrificateurs sont arrivés avec Moïse. Son frère Aaron a été le premier. On parle bien sûr de Melchisédek avant. Mais Melchisédek, comme ici dans la famille d'Abraham, les sacrificateurs, c'était les chefs de famille. Et c'était toujours l'aîné qui devenait, à la mort du père, le sacrificateur de la famille. Donc, normalement, Ésaü aurait dû devenir sacrificateur de la famille à la mort de son père. Et à un moment donné, il a faim et il dit « Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ça ? Pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est ça qu'il dit. Et l'autre, il dit, tu me vends d'abord ton droit d'aînesse, parce que moi, ça m'intéresse d'être sacrificateur de l'Éternel. Mais celui qui était appelé à être sacrificateur, il a préféré mettre son ventre devant, c'est-à-dire ses besoins de vivre, tout bête. Et il a dit « fi de l'appel de Dieu ». C'est ça, la profanation. Et vous voyez, dans le monde chrétien, nous sommes tous des sacrificateurs, tous appelés à être des sacrificateurs. Mais ceux qui vivent leur propre vie et qui disent « on verra plus tard ce que le Seigneur me demande », sont des profanateurs. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y aura des vierges folles. Parce qu'après, quand Ésaü est allé voir son père en disant « est-ce que tu peux changer ?» Non, je ne peux pas. Parce que ce que tu as fait, tu l'as fait devant Dieu. Toute la patte va lever, frères et sœurs. C'est la parabole dit que toute la patte va lever. Je voudrais vous lire maintenant une enquête qui est sortie sur le journal allemand Die Welt le 28 avril 2003. Et l'enquête dit ceci. 36% des Allemands se disent athées ou non religieux. Bon. Il y a 26,6 millions qui se disent catholiques. Il y a 26,3 millions qui se disent protestants. D'accord ? 45% seulement des catholiques. Et 27% seulement des protestants croient qu'il y a une résurrection après la mort et une vie après la mort. 31% des catholiques et 25% des protestants croient en la réincarnation. 40% des catholiques ne croient pas qu'il y a un créateur. Et le journaliste termine son article en disant « Il y a donc des catholiques et des protestants non-croyants. » Mais, frères et sœurs, tout ça, c'est le grand arbre. Tout ça, c'est le grand arbre. Et dans le grand arbre, on a envoyé des corbeaux qui nous ont introduit la réincarnation, qui nous ont introduit ici, qui nous ont... Et c'est le grand arbre. Jésus n'était pas naïf, il savait. Après ça, vous avez deux petites paraboles, toutes petites, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et on se demande bien, mais pourquoi Jésus n'a mis deux ? Il y a la parabole du trésor caché et la parabole de la perle. Le trésor caché, je vous le lis, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. » Et puis l'autre, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ça se ressemble, hein ? Mais ce n'est pas du tout pareil. La parabole du trésor caché. D'abord, ça se passe dans un champ. Un champ, c'est une terre. Et quand je vois terre, moi... Souvent, je me dis « terre d'Israël ». Terre d'Israël. En termes prophétiques, la terre, ça représente Israël, le territoire. Jésus, pardon, pas Jésus, mais Dieu, dans le livre du Lévitique, chapitre 25, verset 23, nous dit « Écoutez, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, et vous êtes chez moi. » comme étranger et comme habitant. La terre d'Israël n'appartient pas aux hommes, frères et sœurs. Les hommes sont en train de la dépecer, de la découper, tout ce qu'on veut, mais elle appartient à Dieu, alors ils ont intérêt à se méfier. L'homme dont il est question dans la parabole, c'est Jésus, et qui découvre dans la terre d'Israël, au moment où il est venu, il avait la vision des choses, lui. Et il a vu dans le peuple d'Israël, il l'a vu en projection se convertir. Mais sur le moment, les choses ne se sont pas passées. Et Jésus a été rejeté par ce peuple. Mais lui, il a vu quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un peuple très particulier, dont Dieu dit qu'il est la prunelle de ses yeux. Il nous est dit dans Deutéronome, au chapitre 32, versets 9 à 10, « La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude effroyable hurlement. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. » Et qu'est-ce que voit Jésus quand il vient en Israël ? Il voit ce peuple prunelle des yeux de Dieu. C'est un trésor. Mais au lieu de le prendre tout de suite, qu'est-ce que nous dit la parabole ? Il le cache. C'était caché et il le recache. Il dit, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Il y en a un qui avait vu clair, hein, que Jésus était bienvenu pour le peuple d'Israël, c'est Caïphe. Caïphe a prophétisé et il a dit, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et d'abord la nation juive, d'abord. Mais comme elle ne s'est pas convertie, cette nation, n'a pas reconnu son roi, pourtant Jésus l'a dit, hein, à un moment donné, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » C'est pourquoi le trésor reste caché. Parce que la parabole dit bien que le trésor était caché et qu'il le recache. C'est étrange, hein ? Jusqu'à son retour, ou quand il reviendra à la maison, il prendra son trésor et c'est lui qui le prendra. Et il y a tellement de beaux textes, même dans le Nouveau Testament, où on voit Jésus, cette femme courbée, hein, cette femme courbée depuis 18 ans. Vous savez, la femme courbée, eh ben, elle pouvait voir que ses pieds. Elle ne pouvait donc pas voir Jésus. C'est Jésus qui est allé vers la femme courbée. On lui dit, il a touché, sois guéri. Et ça faisait 18 ans. 18 ans, c'est 3 fois 6. Elle était arrivée au bout de son mal. Elle n'en pouvait plus. Et elle ne pouvait pas voir Jésus. C'est Jésus qui est allé vers elle. C'est son trésor. C'est son trésor. Et la perle alors ? Le royaume des cieux. Eh bien, une perle, là, la perle, c'est dans la mer. C'est pas dans la terre, c'est dans la mer. C'est pas pareil. Et c'est une perle qui se forme dans une coquille par la souffrance. Parce qu'il faut mettre un grain de sable et faire mal à l'huître. Et quand elle a mal, elle fait de la nacre. Et la perle se fait. Parce que ce grain de sable-là, ça la gêne. Et un petit peu à la fois. Et alors, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et c'est caché. C'est caché. C'est pour ça, frères et sœurs, dans tout cet univers qu'on dit chrétien, il y a quelque chose de caché qui se prépare. Dans la souffrance. Dans la souffrance. Et on est aussi acheté. 1 Corinthiens 6, verset 20 nous dit, « Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Et oui, on est caché. Il nous est dit dans Colossiens 3, verset 3 à 4, « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus, il va venir rechercher sa perle. Il va la prendre au fond de la mer. Et c'est seulement à ce moment-là, quand il la mettra à son doigt, qu'on dira, quelle belle perle. Mais pas maintenant. Qui connaît la perle maintenant ? Personne. Mais la perle, elle est là, en train de se préparer. Et la souffrance, elle est là aussi. Et elle est utile, sinon il n'y aura pas de perle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et quand elle aura toute sa splendeur, quand elle sera retirée de la mer. Donc vous voyez, elle sera à ce moment-là sans rides ni taches. Et Christ pourra la montrer à tous, son épouse, sa perle. Et il ne faut pas confondre, frères et sœurs, son épouse et son trésor. Le trésor, c'est l'épouse de Dieu, tandis que la perle, c'est l'épouse de Christ. Israël, c'est l'épouse de Dieu. Vous voyez ? Il y a des choses comme ça. Alors tout ça est en train de se construire, tout ça est caché, tout ça est... Voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et puis vient le moment où le Seigneur parle de la parabole du filet. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, et ramassant des poissons de toute espèce, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans un vase ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Il y a d'autres traductions qui disent à la fin des temps. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils jetteront dans la fournaise ardente d'où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Alors, la parabole du filet, c'est un tri. C'est un tri. Qui dit tri, dit jugement. Forcément, on retire les bons et les mauvais. Mais je voudrais vous rappeler que l'instauration du royaume sur terre, que l'on appelle millénium, parce que c'est l'Apocalypse qui nous le dit, c'est un moment où Satan est lié pour 1000 ans, hein, on le sait, et que Satan est délié après ces 1000 ans. Ça, c'est aussi un mystère à comprendre. Hein. Mais voilà, il y a la fin de la première résurrection d'entre les morts. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc il y a bien deux choses. Mais auparavant, juste au début de ces 1000 ans, juste au début de ces 1000 ans, il y a la grande tribulation. Il y a la perle de grand prix qui est retirée. Il y a Jésus qui vient chercher son trésor. Et les 1000 ans, vont se passer avec tous ceux qui seront sortis de la première résurrection, le trésor, tous ceux d'Israël, et les survivants des nations. Parce que ça va être une sacrée catastrophe sur la terre, et il va y avoir des survivants. Et l'Écriture nous dit que juste au moment où le royaume va commencer, il y a ce qu'on appelle le jugement des nations. Il y a beaucoup de jugements dans la Bible. Hein. Il y a le tribunal de Christ. C'est le moment où on va distribuer les récompenses aux chrétiens qui auront servi le Seigneur. Il y a le jugement des nations. Il y a le jugement des 12 tribus d'Israël. Il y a le jugement des anges. Il y a le jugement de la grande prostituée. Il y a le jugement de la bête et du faux prophète. Il y a le jugement de Babylone la grande. Puis, en la fin, vous avez le jugement final. Mais le jugement des nations, c'est quoi ? Je vais vous le lire. C'est dans Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc c'est bien quand il va revenir, hein, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc toutes les nations le verront. Donc il n'est plus question de foi, on voit cette foi. Donc le tri qui va se faire n'est pas un tri qui se fait par la notion de la foi, mais par la notion des œuvres. Ben oui, il n'est plus question de foi, là. Et le tri qui se fait, il se fait comment ? Il dit, il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Et il dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. » Vous voyez bien qu'on est au début, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Vous connaissez ce texte, d'accord ? C'est bien des œuvres, ça. Pour ceux qui sont à gauche. Alors les justes, ils diront, mais quand est-ce qu'on a fait ça, Seigneur ? Je ne me rappelle pas. Ceux qui sont à gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Écoutez ça, préparé pour le diable et ses anges, ça veut dire que ça n'a pas été préparé pour les hommes. Ça veut dire que Dieu avait bien dans l'idée de sauver tout le monde. Sinon, il aurait dit, ça a été préparé pour certains hommes. Mais non. Donc Dieu a bien dit qu'il appellerait tout le monde, mais tout le monde ne se laisse pas appeler. Il dit, retirez-vous de moi, maudit. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et ils disent, mais quand est-ce qu'on t'a vu que tu avais faim et on ne t'a pas donné à manger ? Ils n'ont rien vu. Mais à quel moment ça peut se produire, ça, frères et sœurs ? Eh bien, il va y avoir des gens qui vont se tourner vers le Seigneur après l'enlèvement, pendant la grande tribulation. Il y a des gens qui vont trouver les Écritures qui seront restées. Ils auront le souvenir de témoignages qu'on leur aura donnés et qui, pendant la grande tribulation, vont se tourner vers le Seigneur. C'est la grande moisson du Seigneur. Mais ces gens-là, frères et sœurs, comment ils vont vivre ? On ne pourra plus ni manger ni boire, ni vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Qui est-ce qui va leur donner à manger ? Qui est-ce qui va les aider ? Certains hommes, par humanité, vont cacher ces gens, les protéger, vont leur donner à manger. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Le verre d'eau de celui qui ne peut même pas acheter un verre d'eau. Et à la fin des 7 ans, le Seigneur va dire, vous, mettez-vous à droite, et vous, qui m'avez méprisé, qui m'avez écrasé, qui avez participé au massacre des chrétiens, mettez-vous à gauche. Alors ceux-là, je ne sais pas comment il va les faire disparaître. Mais vous voyez, dans le royaume, il n'y aura que ceux qui feront partie des nations brebis. Des nations brebis. Et c'est comme ça que la construction se fait du royaume. Et je voudrais terminer en vous disant, je vais juste lire, mais vous en lirez plus sur le papier, un verset de l'Épître aux Galates, chapitre 6, versets 7 à 10. « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Il y a aussi, lorsque dans 1 Thessaloniciens 1, versets 6 à 10, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Vous voyez, c'est pas le petit Jésus qui revient. Je vous rappelle qu'il est écrit qu'il vient avec une verge de fer. Donc il va mettre les choses en ordre. Et que le Seigneur nous a prévenus de tout, à nous de comprendre les Écritures, à nous surtout, frères et sœurs, d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit et à faire la différence avec notre propre voix ou la voix du malin. Que le Seigneur vous bénisse.